Donc je me présente, Hervé de Roubaix, donc maire de la commune de Robecq et donc président de l'association des maires ruraux du Pas-de-Calais. Et je suis également vice-président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane.
Donc aujourd'hui à Gonnehem.
Donc oui, j'avais sollicité le maire de Gonnehem parce que je savais qu'il a une salle qui se prêtait tout à fait à ce genre d'assemblée générale dans un cadre assez sympathique et donc il a tout de suite accepté. Voilà.
Donc une assemblée générale des maires ruraux du Pas-de-Calais.
Oui, c'est ça. Donc on appelle maires ruraux, donc c'est les maires des communes de moins de 3500 habitants. Mmh. Voilà, donc il y en a environ 700 dans le Pas-de-Calais. Il faut savoir que le Pas-de-Calais est le département qui compte le plus de communes en France. Hein, c'est le premier département, avec 895 communes, dont environ un peu plus de 700 qui ont moins de 3500 habitants.
Donc vous avez quand même déplacé aujourd'hui deux ministres, ce qui n'est pas rien.
Oui, en effet, donc au début, il ne devait en avoir qu'une seule. Et puis, j'ai appris hier matin qu'il y en avait une seconde qui accompagnait. C'est vrai que pour ma première assemblée générale, moi, en tant que président, c'est remarquable d'avoir donc la présence de deux ministres, en effet.
Ah, c'est vrai que vous avez, on va dire, une fédération, une association nationale. Et ici, vous êtes le relais départemental ou vous avez une entité presque autonome ?
Alors, on n'est pas tout à fait autonome dans la mesure où l'adhésion, donc il y a une partie qui repart à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, on est complètement indépendant au niveau du bureau.
Donc, il y avait un vrai enjeu aujourd'hui à rencontrer les maires du Pas-de-Calais, les maires des communes rurales, qui faisaient remonter leurs problématiques au ministre et au préfet, qui a été bien, j'allais dire, sollicité aussi.
Oui, en effet, alors souvent, c'est le lieu lorsqu'il y a une ministre, et en particulier donc le préfet, bien les maires, entre guillemets, se lâchent un peu. J'ajouterai aussi que la présence de notre président national, hein, Michel Fournier, président national de l'AMRF, au travers de son discours qui était assez pugnace, on peut le dire, hein, donc il a dit beaucoup de choses, et c'est vrai que je pense que les maires ont pris le relais derrière pour énoncer leurs doléances.
Donc ces doléances, est-ce qu'elles sont assez identiques entre les communes, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des problèmes très particuliers et qui ont besoin d'un traitement très différencié.
Écoutez, sans vouloir opposer les communes rurales des grandes communes, hein, des plus grandes communes, c'est vrai que nous, dans les communes rurales, on a quand même beaucoup moins d'ingénierie, beaucoup moins de moyens, et donc on se débrouille beaucoup par nous-mêmes, et c'est vrai qu'il y a toujours un éternel débat avec, si vous voulez, ce qu'on appelle les charges de centralité pour les grandes communes, qui leur permet d'avoir plus de dotation par habitant. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu, on ne va pas dire cette guéguerre, mais parfois donc des demandes qui peuvent différer, et parfois donc les ruraux ont l'impression de toujours passer après les urbains.
Donc là, on a des communes, 900 communes, hein, je pense, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que c'est pas trop ?
Oula, je ne me permettrai pas de dire ça, bien au contraire.
Moi, je posais la question. Ouais.
Oui, bien sûr, en tant que représentant des maires. Alors, je ne pense pas que c'est trop. À partir du moment où la commune est capable de vivre, elle a son identité, voilà, elle est tout à fait légitime. Après, il est vrai que, de par leur propre initiative, il y a certaines communes qui décident de fusionner pour différentes raisons. Et je pense qu'à partir du moment où bien les habitants le souhaitent et les élus le souhaitent, pourquoi pas. Mais je pense que tant que les communes peuvent être indépendantes, il faut qu'elles le restent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le maire reste le maillon le plus proche des habitants. C'est vrai que très souvent, les habitants viennent vers leur maire. On dit souvent qu'on est à portée de claque. C'est vrai qu'on ne vient pas toujours pour être félicité, mais au moins, ils ont un contact direct. Et les gens ont le sentiment, quelque part aussi, qu'on représente l'État, même si ce n'est pas tout à fait le cas.
Donc ces maires se plaignent, sans doute à juste raison, de devoir traiter des responsabilités, je ne vais pas dire qu'ils les dépassent, mais qui nécessitent des compétences et peut-être des moyens qu'ils n'ont pas forcément.
Oui, alors c'est vrai que moi je suis maire depuis 15 ans maintenant, et c'est vrai que donc les crises successives qu'on a eues, hein, avec les gilets jaunes, le Covid évidemment, encore récemment des émeutes qu'on a même vues dans des communes rurales, c'est vrai que la société évolue et que pour les maires c'est de plus en plus difficile d'être en première ligne et de répondre à une société qui veut être très réactive. Et il est vrai que, je prends l'exemple de travaux, hein, quand les travaux c'est vous qui les organisez, vous pouvez les maîtriser, lorsqu'on est dépendant de subventions qui peuvent venir du département, de l'État, de la région, évidemment c'est plus long et les gens souhaiteraient avoir une réponse très rapide que nous n'avons pas.
Donc l'État, la région, le département du Pas-de-Calais, en l'occurrence, aide parfois, hein, les communes. C'est jamais suffisant, j'imagine. Et puis il y a l'État qui a des budgets qui sont limités, même si ça existe. Et souvent, les communes ne comprennent pas toujours pourquoi elles ne sont pas aidées davantage.
Oui, en effet, c'est ce qui... C'est ce qui ressortit beaucoup des débats, c'est notamment donc au niveau de l'État. Parfois, on n'a pas toujours des réponses. C'est vrai qu'il y a quelques années, on vous disait oui, on vous disait non. Et là, parfois, on n'a même pas de réponse. Donc c'est un petit peu frustrant et c'est difficile d'expliquer à nos habitants que parfois les projets eh bien, sont décalés parce qu'on n'a pas de subvention. Et parfois, les habitants s'impatientent. On dit oui, monsieur le maire, vous nous avez promis ça et vous ne l'avez toujours pas fait. Mais on essaie d'expliquer que nous ne sommes pas toujours... Enfin, nous sommes surtout tributaires des subventions. Et parfois, il faut attendre un an, deux ans, trois ans. Et c'est vrai que après, parfois, on a tendance à vouloir abandonner des projets faute de crédit qui viennent nous aider.
Donc il y a les projets, j'allais dire, normaux, habituels et d'engagement de territoire, sans doute. Hein, mais il y a aussi les gros problèmes liés, par exemple, aux inondations récentes et peut-être récurrentes.
Oui, alors là, ce qu'on peut quand même dire au niveau des inondations, le préfet le soulignait, c'est vrai qu'il n'avait jamais vu ça, lui, qui était dans beaucoup de départements. C'est vrai que là, l'État, quand même, on peut dire, a mis le paquet. Au niveau des inondations, il y a eu des crédits spécifiques qui ont été sortis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des maires qui ont des destructions de voiries, évidemment reconnues catastrophes naturelles, on ne peut jamais dire que l'État rembourse rubis sur l'ongle, mais quand même, l'État fait de gros, gros efforts pour donner donc des crédits nouveaux qui n'existaient pas auparavant.
Alors, une inquiétude, pour le coup, c'est le fait que les assurances, pour l'instant, ont payé certains travaux, mais si c'est récurrent, elles risquent de freiner un petit peu les remboursements, voire dire qu'elles ne sont plus responsables de leurs engagements de départ.
Oui, alors effectivement, ça, c'est, on en a discuté. Bon, là, ça ne dépend pas forcément du maire, évidemment, mais il est vrai que, ne serait-ce que le problème de franchise, effectivement, c'est un premier point. Donc, il y a des entreprises, notamment, qui laissent beaucoup de plumes. Et effectivement, donc là, l'État doit légiférer pour presque, entre guillemets, interdire qu'une assurance dise ne prenne plus ce risque, parce que sinon, il y aurait des habitations ou des lieux ou des territoires qui pourraient ne plus être assurés du tout. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de vie. Et c'est vrai que je pense que l'État a tout intérêt à vérifier cela et donner donc des bonus-malus et peut-être parfois, on ne peut pas dire interdire une assurance puisqu'elle a toujours le libre choix, mais pour autant de lui donner un malus si elle décidait de ne plus assurer un certain territoire.
Donc est-ce que les maires actuellement sont en réflexion justement par les autorisations de construire sur des terrains dont on ne sait pas trop s'ils seront viables à long terme ?
Oui, je crois que là, ce qui s'est passé récemment a définitivement enfoncé le clou de ce qu'on appelle souvent des PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation dans les différents secteurs concernés. Et là, je crois que plus aucun permis de construire ne sera autorisé dans une zone qui a été inondée. Alors effectivement, parfois, on peut se dire ça. S'il n'y avait plus d'inondation pendant 20 ans, après, les gens ont tendance à oublier. Mais je crois que là, cette fois-ci, non, c'est terminé. Et de toute façon, avec d'autres lois telles que Lausanne, un zéro artificialisation net, il n'y aura plus de construction comme ça, telle que ça a été fait pendant au cours de ces 50 dernières années. Je crois que maintenant, il y aura une limitation de toutes les constructions et a fortiori de constructions dans les zones inondables.
Et donc là, une proposition d'une des ministres de ce matin, c'est le fait d'envisager, dans les rénovations par exemple, ou même pour anticiper, d'améliorer les habitats pour éviter qu'ils ne soient trop sensibles au vent, aux intempéries.
Oui, en effet. Donc pour améliorer donc leur diagnostic énergétique, on va dire, effectivement. Donc il y a des aides avec l'ANA, donc des aides de 5000 euros. Alors c'est vrai que les aides de l'ANA existent, mais elles sont toujours subordonnées aux revenus. Et il faut le dire, parfois, avec, elle l'a d'ailleurs reconnu, hein, des montages de dossiers qui étaient complexes. A priori, donc, ça devrait se libérer, se décorseter. On va voir.
Donc réduire la voilure, enfin la prise au vent.
Oui, en effet, on va dire ça, réduire la prise au vent, oui. Mais je vous dis, c'est vrai qu'ils ont dit qu'il existait avant de construire des maisons dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a encore, il y a un certain nombre, entre 6 et 8% par commune, donc de maisons inhabitées, donc de logements vacants. Et c'est vrai que c'est quand même la priorité avant d'effectivement autant remplir ces zones vacantes, les occuper plutôt que d'aller encore aller manger, entre guillemets, des espaces cultivés.
Est-ce que pour vous, redonner de la vie au village, c'est nécessaire, c'est possible ?
Oui, mais je reste persuadé. Alors, pour vivre quelque part, il faut avoir un métier, il faut avoir un emploi. Donc, soit proximité ou soit avoir donc des moyens de déplacement qui permettent d'aller travailler dans de bonnes conditions, soit des transports en commun, soit un axe routier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que la plupart des emplois ne soient pas forcément en proximité font qu'effectivement, certains villages peuvent se déserter. Mais j'ai le sentiment que dans le Pas-de-Calais, cette désertification, au contraire, diminuait. Tout à l'heure, en échangeant avec le préfet, me montrait même que là où il y avait plutôt de l'augmentation de la population, c'était plus dans dans les zones rurales que dans les zones urbaines.
Comme quoi ?
Donc ici, on est dans un village, on peut redire le nom ?
Oui, donc ici, nous sommes à Gonnem, donc Gonnem, donc il y a 2500 habitants.
Et c'est un très beau village, donc j'imagine que venir à Gonnem, c'est peut-être avoir envie d'y résider.
Ah, je pense que tous les gens qui viennent ici à Gonnem, effectivement, ils auront envie d'y résider. Regardez la belle médiathèque qu'on a ici, le cadre est superbe. Et effectivement, même s'il y a eu un peu d'eau de temps en temps, mais ça a été très juglé grâce justement aux zones d'extension de crues, aux confortements de berges qui ont été faites.